info
du mercredi.
Bonsoir, pardon. Voilà, on reprend les infos dans le studio et on avait complètement oublié qu'il fallait qu'on mette du cellophane. Ah, attends, je te coupe ton micro pendant que tu veux le cellophane. C'est bon. Qu'il fallait qu'on mette du cellophane sur nos micros pour les virus, tout ça. Alors, bon, du coup, on s'installe doucement dans le studio. Pendant que ça s'installe de l'autre côté, je vais vous dire un peu ce que. Attends, bouge pas, je coupe ton micro. Voilà, super. On va parler de quoi ? On va parler de. On va avoir des brèves pour commencer. Ensuite, on va parler de Trump et les exécutions. Ensuite, normalement, on m'entend. Hein. Toi, tu m'entends pas.
Alors je suis désolé, je perturbe la personne qui est en train de vous parler parce que je voudrais bien avoir du son dans mon casque.
Ah bah ça, tu te démerdes. Moi, je peux rien. Ensuite, on va parler de la France et une répression qui s'emballe avec quelques exemples. Hein. Ensuite, on parlera des salariés de General Electric à Villeurbanne qui sont en grève de la faim. Ensuite, on a une grande avancée écologique qui se profile. J'imagine que vous avez dû en entendre parler. Ça s'appelle un référendum et ça se passe en France et c'est pour inscrire la protection du climat dans la Constitution. Et j'avoue, on est plutôt content et contente de savoir quelle sera la campagne du non. C'est-à-dire, voilà, bon. voilà un peu, ce sera quoi les arguments pour dire bah non, on veut pas. Enfin, je pense qu'on va se marier.
On est contre le climat, putain.
Ouais, c'est ça, on est contre le climat.
On se pèle en hiver. Est-ce que il va falloir que ça réchauffe.
Est-ce que ce sera un référendum contre Météo France? Est-ce que, bon, bref. Et on finira par faut que ça sache. Non, oui, on finira ensuite par un agenda. Voilà. Et en tout cas, on est quand même super content et contente de vous retrouver en direct dans le studio.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Et donc, on va commencer par une info super, super brève. Alors, vous vous souvenez peut-être de cette histoire qu'on vous racontait il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, tout au plus, à propos d'Avenir Lycéen. Mais si vous vous souvenez sûrement, ce syndicat qui est à la botte de la Macronie a été créé et financé sous la... Alors, je rigole un peu parce que...
c'est quand même un retour un peu folklorique.
Je crois que les activités magiques sont finies.
Mais on a du son dans nos casques.
Et grâce à ça, on a du son dans nos casques. Super. Bon, on parlait d'Avenir Lycéen, du coup. C'est un syndicat, on en parlait il y a quelques semaines, qui est plutôt à la botte de la Macronie, hein, qui a été créé et financé sous la houlette du ministre de l'Éducation, Blanquer, pour enrôler de jeunes marcheurs et de jeunes marcheuses. Et puis, c'est un syndicat qui a été généreusement arrosé d'argent public, non moins généreusement ensuite dépensé en retrait d'espèces, en restaurant et autres dépenses du samedi soir, d'après une enquête de Mediapart dont on parlait il y a quelques semaines. Voilà. Alors tout de même, c'était un peu limite cette histoire-là. Et puis Blanquer, fort de ce constat qu'il semble partager, annonçait donc lundi, je cite, « Il y a un système qui existe depuis fort longtemps, qui consiste à avoir des subventions pour les associations de lycéens. On peut d'ailleurs en discuter. Je n'exclus pas d'ailleurs d'arrêter ces subventions, car je vois que c'est un sujet de polémique. » Voilà. Alors, ce qui semble un peu oublié, c'est que la polémique en question ne touche pas les dépenses en autocollant de l'UNEF. Et qu'en fait, la seule chose dont les syndicats lycéens et les lecteurs de l'enquête lui demandent de discuter, c'est plutôt des passe-droits d'avenir lycéen.
Ah, voilà. Et du coup, là, c'est le chaos. Hein. On n'a plus la vie. Tout avant, on était avec des enregistrements,
ah,
on faisait
ça
part en direct. Ouais, c'était quand même tranquille. Surtout que c'était pas moi qui le faisais. Mais... Alors, on va continuer avec à parler éducation nationale. Alors, si jamais vos parents vous ont caché la vérité sciemment, ou que vous n'écoutez pas les bruits de couloir, de récré ou de cours de lycée. Mais si vous êtes écolier, écolière, collégien, collégienne et lycéen ou lycéenne, sachez que le gouvernement a pris la sage décision de faire péter demain et après-demain pour les cours qui concernent ces deux jours. Les absences ne seront pas comptées. Alors c'est même conseillé par le Premier ministre. Alors bon, c'est vrai que sécher avec l'accord du Premier ministre, ça peut avoir une certaine classe. Ou être un peu ringard, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est quand même imparable comme excuse. Sachez qu'en plus, ça va doublement faire chier vos profs, car d'une, Castex et Blanquer, avec ce que je viens de dire, et depuis quelques temps, on peut dire qu'ils n'ont pas sérieusement la cote dans l'éducation nationale. Et en plus, comme ils l'ont appris sur France Inter en allant au boulot dans leur voiture, sans avoir été consultés avant, ils sont remontés comme des coucous. Allez, bonnes vacances anticipées à vous.
C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure? J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir.
Mais est-ce que tu nous remets le générique?
Oui. Voilà, donc ces infos commencent. Il est 19h06 et elles recommencent.
Et donc c'est à toi, vas-y.
Alors, on pourrait parler des exécutions qui sont la grande passion de Trump, puisque le gouvernement des États-Unis vient de procéder à une nouvelle exécution. C'est un homme noir de 40 ans qui a été tué par l'État le 10 décembre pour avoir participé à un double meurtre quand il avait 18 ans. Alors, c'est une mise à mort qui a été décidée par le pouvoir central de Washington et non par un des 50 États du pays, et qui intervient en vertu du fait qu'aux États-Unis, le président peut intervenir pour les jugements rendus par les cours et les tribunaux fédéraux. C'est la 9e exécution fédérale depuis juillet, alors qu'il n'y en avait eu aucune depuis 17 ans, et que, du fait de la pandémie de Covid, même l'État du Texas avait suspendu les exécutions. Alors, 4 autres exécutions sont planifiées d'ici fin janvier, quand Trump quittera la Maison-Blanche, alors que Biden avait annoncé qu'il abolirait la peine de mort au niveau fédéral. Hein, attention, les États restent maîtres d'en faire autant qu'ils veulent. Trump rajoute donc dans la mise en scène barbare, s'il peut le faire, c'est parce que les lois de cette soi-disant plus grande démocratie du monde lui permettent, évidemment. Alors, William Barr, le ministre américain de la Justice, a édicté de nouvelles règles afin d'élargir les modalités d'administration de la peine capitale au niveau fédéral. Depuis des décennies, les exécutions fédérales se faisaient uniquement par injection létale, mais il est désormais possible d'avoir également recours au peloton d'exécution et à chaise électrique. On se demande bien pourquoi ils ont besoin de tout ça. S'il poursuit au rythme annoncé jusqu'à l'investiture de Joe Biden, donc 9 exécutions prévues jusqu'à janvier, le département de la justice aura procédé à 13 exécutions de condamnés à mort en moins de 6 mois. C'est du jamais vu depuis 1927. Alors, une autre tradition des présidents états-uniens, c'était plutôt une tournée générale de grâce présidentielle, hein, dispensateur magnanime de bienfaits arbitraires. Malgré ses mises à mort accélérées, Trump ne déroge pas à son rôle divin de distribuer à tour de bras le pardon, mais en choisissant surtout de gracier plusieurs de ses anciens collaborateurs condamnés dans des affaires qui le concernent lui-même directement. Voilà, il envisage même de s'auto-gracier pour les poursuites dont il pourrait faire l'objet à l'avenir. Voilà, on pense que Sarkozy aurait certainement aimé cette bonne idée. Voilà, et donc...
Des constitutionnalistes américains débattent sans fin pour savoir si c'est ou non possible.
Voilà, et est-ce que c'est constitutionnellement parlant possible? Voilà, donc affaire à suivre, on verra si ça a réussi.
Can you info? Du mercredi.
Et on revient en France avec une répression qui s'emballe. Je vais raconter juste des petites histoires un peu brèves comme ça que j'ai trouvées. Bien sûr, comme tous les mercredis où je suis un peu pressé, sur Nantes Révoltée qui me prépare mes infos. J'ai quasiment pas un mot à changer. Et on va commencer par l'histoire de Mélanie. Alors, Bon, pour les gens qui n'auraient pas entièrement suivi, qui ne se seraient pas informés sur des médias un peu militants sur la fameuse manif de samedi dernier à Paris, la manif contre la loi sur la sécurité globale, vous avez peut-être entendu que, en fait, les forces de l'ordre ont très bien réussi leur coup, que ça a été une manif calme, qu'ils ont interpellé beaucoup d'individus potentiellement violents.
Mais calme quand même.
Mais en tout cas, voilà, qu'ils ont su garder le calme, qu'il n'y a pas eu de black bloc et tout ça. Voilà.
Et que la nouvelle stratégie du maintien de l'ordre était une réussite.
Était une réussite. Ce que disent les gens qui, eux, étaient à la manif, c'est qu'en fait, les flics, du début à la fin, ont fait des sortes d'attaques éclairs à l'intérieur de la manif en tapant tout ce qu'il y avait autour d'eux pour aller chercher une personne. Généralement, enfin, et les critères pour aller chercher cette personne semblent être parfois un peu étonnants, mais il y a même des flics à la télé qui ont dit on a interpellé des individus qui étaient habillés en noir.
Mmh. Donc, il y avait voilà. Un parapluie noir.
C'est ça, il y avait un parapluie noir.
Ça, c'était très grave à ce moment-là.
Tout à fait. Et il se trouve que sur les 150 personnes qui ont été interpellées, il y en a extrêmement, extrêmement peu qui ont eu des poursuites, qu'il y en a plein qui ont été relâchées avant la fin de leur garde à vue, que certaines ont eu un rappel à la loi. Mais ça, c'est toujours un moyen de dire il s'est passé quelque chose, mais en fait, la personne, elle ne va pas refuser le rappel à la loi parce que le risque, c'est d'avoir des trucs vachement plus emmerdants derrière. Du coup, la personne n'est pas tout à fait innocente puisqu'elle a eu un rappel à la loi. Et en même temps, en vrai, elle n'a rien fait, mais c'est juste qu'elle a un peu le chantage de soit elle repart avec son machin où on la sermonne, soit elle risque un vrai procès avec des vrais risques, puisqu'on sait que la parole d'un flic contre la parole d'un ou d'une manifestante, et ben, à ce moment-là, on risque réellement des mois de tôle ou des amendes gigantesques.
Ça veut dire qu'ils n'ont même pas réussi à lui foutre outrage et rébellion ou participant à un attroupement ayant vocation à commettre, enfin, je ne sais pas exactement
c'est quoi le truc.
Ce qui sont un peu, en général un peu le minima, quoi.
Ouais, c'est exactement ça qui s'est passé. Alors, parmi toutes ces personnes, parmi ces 150 personnes qui ont été raflées samedi dernier, eh ben, ma foi, une jeune femme, Mélanie, qui avait été tabassée et blessée déjà pendant le mouvement des Gilets jaunes. Mais résultat, depuis cette histoire où elle avait été tabassée et blessée, il y a une vidéo où on la voit qui se prend un coup de matraque sur la nuque, qui tombe par terre et qui bouge plus, et plein de flics qui sautent par-dessus elle pour aller matraquer plus loin. Depuis, mais elle s'engage contre les violences d'État avec ce collectif qui s'appelle les Mutilés pour l'Exemple. Mélanie est accusée sur ce coup-ci, sur samedi dernier, d'avoir tenu un parapluie multicolore. Alors vous allez me dire, c'est hyper grave, vous allez me dire certainement quand même,
pourquoi pas noir.
Et puis quand ils l'ont présenté à un juge, le juge a dit bon, bah, c'est bon, vous allez peut-être la laisser partir. Eh bien non, c'est pas ça qui s'est passé. Mélanie est restée 72 heures en garde à vue pour son parapluie multicolore. 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, 3 nuits. Derrière les policiers enragés qui l'ont arrêté, il y en a d'autres qui l'ont enfermé, d'autres qui l'ont interrogé, et il y a des magistrats qui ont reconduit la garde à vue une première fois et une deuxième fois pour un parapluie multicolore.
Mais on sait c'est quoi le chef d'inculpation ? Enfin, ce qu'il a interroché pour que ce soit 72 heures ?
Je viens de dire que j'avais préparé mes infos rapidement.
Ah, oui.
Mais Mélanie est sortie mardi, sans poursuite, en tout cas. C'est-à-dire qu'après 72 heures de garde à vue, elle est ressortie avec que dalle de poursuite. Et donc, il s'agit, nous dit Nantes Révolté, d'un enfermement punitif et extrajudiciaire, et qui est là pour briser. Mmh. Et en fait, c'est une tactique qui devient courante. C'est un truc que les flics font de plus en plus. Bon, Mélanie, à sa sortie de garde à vue, bouleversée, elle a témoigné auprès de David Dufresne, le fameux. Elle explique ce qu'elle a vécu, elle affirme qu'elle refuse de céder aux intimidations et qu'elle continuera à tenir la rue. Vous pouvez voir son témoignage, alors entre autres sur Nantes Révolté, hein, d'où vous avez compris que je tire cet article, puisque je l'ai déjà dit 4 fois. Attendez, c'est pas fini, parce que j'ai des histoires qui sont même pas des histoires de manif. Hein, mais alors vraiment, vous avez... enfin bon bref, vous allez voir. Un habitant du département de la Loire a été contrôlé par des gendarmes sur la route, c'était il y a quelques semaines. Bon voilà, il est contrôlé, tata, il monte ses papiers, puis après il rentre chez lui, et il publie sur son Facebook un petit machin, un statut apparemment ça s'appelle, mais je suis pas... Pardon, je suis vieux.
Un statut, c'est bien ça.
Où il dit qu'il y a, ouvrez les guillemets, des pingouins sur le rond-point. Pingouins. Un message qui a l'air comme ça un peu anodin, à peine légèrement ironique. Publié donc sur les réseaux sociaux, comme on dit. C'était sans compter sur l'atmosphère actuelle, hein, la police, tout ça. Les gendarmes, ma foi...
On ne traite pas un policier de pingouin,
c'est
impunément.
Ça. Les gendarmes ont remonté son profil, ont relevé les publications, et ma foi, ils l'ont convoqué au commissariat. Cet homme est finalement poursuivi pour outrage et rébellion et il sera jugé devant un tribunal le 22 mars prochain. Alors, Nantes révoltée toujours, nous indique que l'amicale des pingouins s'indigne d'être associée à des individus aussi malsains. Attendez, c'est pas fini. François, 54 ans, prof. Alors lui, il est convoqué au commissariat demain. Pourquoi ? Eh bien, figurez-vous que sur Twitter, il a diffusé un dessin. Un dessin. En fait, c'était le portrait du député de sa circonscription, Jacques Lemaire. Il a diffusé, mais c'est pas lui qui a dessiné. Hein. Parce qu'il y a eu un truc où 31 auteurs et autrices de BD avaient publié des portraits des députés qui ont voté la loi sur la sécurité globale. Bon, lui, il a pris ce dessin qui avait été fait par quelqu'un d'autre et il l'a publié sur son Twitter. Juste ça, rien d'autre. Une idée en dessin, une information publique. Ah si, il a aussi écrit un truc qui était député de la honte. Une idée en dessin, une information publique, un vote d'une loi par des élus qui sont censés rendre des comptes. Le député en question, celui qui était dessiné là-dessus, a porté plainte. La police a suivi. François a donc été convoqué au commissariat et il risque d'être poursuivi pour avoir relayé une image sur Internet. Alors, des histoires comme ça, il y en a une, il y en a deux, c'est rigolo, c'est étrange, c'est cocasse, c'est un peu dommage pour la personne, mais bon, c'est pas très grave. En fait, il y en a plein tout le temps. Et il y en a plein de plus en plus et l'accélération est pas... C'est de semaine en semaine le truc s'accélère. Il se passe réellement quelque chose d'un peu flippant. Dans la France de la fin de l'année 2020, les caricatures et les blagues sont tout bêtement interdites si elles visent les riches, les puissants, le pouvoir. Et quand on parle de liberté d'expression, il faut bien comprendre que ça veut dire une chose et une seule chose, c'est la possibilité, voire quasiment le devoir, d'insulter les pauvres et les musulmans et rien de plus.
Radio Canu. Du mercredi.
Alors depuis le 30 novembre, une majorité de salariés de l'usine Grid Solutions qui fait partie du groupe General Electric à Villeurbanne sont en grève pour protester contre la suppression de 260 postes, soit la moitié de l'usine, c'est-à-dire sa fermeture tout simplement. Alors la grève a été menée avec les salariés du site de Saint-Priest également. Saint-Priest, on dit ici, oui. Également menacé de la suppression d'emplois. Le 7 décembre, les négociations ont repris avec le PDG de Grid, qui a tout de même fini par se déplacer à Lyon, mais en annonçant à la trentaine de grévistes venus l'accueillir qu'ils ne venaient pas à cause de la grève. Voilà, donc il posait déjà une ambiance bien propice aux négociations. Après une semaine de négociations, l'ambiance était plutôt à l'optimisme et les délégués des trois organisations syndicales qui sont représentées dans l'entreprise, donc CFE-CGC, CGT et CFDT se sont réunis à Paris hier, le 15 décembre, pour signer l'accord, puisque c'était un accord qui semblait plutôt en leur faveur. Mais surprise, hier, le texte qui leur a été présenté ce matin, ne correspond absolument pas à ce qu'ils avaient négocié. Les derniers comptes rendus de négociation laissaient entendre le maintien d'une activité spécifique à Villeurbanne, donc une activité de fabrication de disjoncteurs de générateurs, et puis des accords sur les catégories professionnelles, sur les indemnités légales. Et puis, finalement, il n'en est rien, et le texte à signer n'offre aucune garantie pour réduire le nombre d'emplois supprimés. Donc, stupéfaits, révoltés, 12 salariés ont débuté une grève de la faim hier. Driss Bouifort, un technicien de contrôle, raconte, je cite, « En prenant mon poste à 5h45, jamais je ne m'attendais à faire une grève de la faim. Mais comment retourner travailler après 3 semaines de grève sans avoir rien obtenu, sans que General Electric honore sa parole, c'est strictement impossible. » Un délégué CGT relate l'état du moral des troupes. « La malhonnêteté de la direction a aggravé l'état psychologique des salariés. On a entendu parler de suicide. Nous sommes extrêmement inquiets. » Certains salariés nous ont dit qu'ils ne savaient plus quoi faire, qu'ils ne veulent plus travailler, plus faire grève, plus voir le médecin, plus rien. Ils ont commencé une grève de la faim devant l'entreprise, totalement désemparée. Les étapes successives de cette grève, si vous voulez en savoir plus, sont à lire sur le site Rapport de Force.
Canu Info.
Alors, imaginez un président qui crée une convention citoyenne pour le climat, puis qui refuse la totalité des propositions importantes de cette convention, puis qui prend des mesures gravement polluantes, puis qui finalement organise un référendum sur le climat. Eh bien, ce président, vous l'aurez compris, c'est Emmanuel Macron. Au moment des Gilets jaunes, le pouvoir, en panique, avait organisé une convention citoyenne pour le climat. Un panel de personnes lambda tirées au sort et censées proposer des mesures pour l'écologie pour donner un sentiment de démocratie en pleine crise, de démocratie un peu directe, quoi, le tirage au sort, tout ça en pleine crise sociale et politique. On imagine bien que Macron, au moment où il a eu cette idée, avait espéré que des gens pris comme ça au hasard veillerait surtout à ne rien faire pour qui risque de remettre en question leur mode de vie et donc reste à peu près dans la limite de ce que Macron peut considérer comme raisonnable. Manque de bol, les participants et participantes de cette convention ont vraiment bossé et après avoir tout regardé de près, se sont quand même pas mal convaincus que la situation est quand même assez grave et qu'il va falloir changer vraiment des choses très très vite pour limiter la catastrophe qui a déjà commencé. Alors malgré tout, ils restent dans une forme de raisonnable. Hein. Ils n'ont pas parlé d'abolir le capitalisme, ce qui serait, à mon sens, plus raisonnable. Mais bon, voilà. Ils ont fait un truc qui était, où il y a quand même des mesures qui sont assez importantes. Macron, lui, il s'est rapidement chargé de passer au broyeur toutes les propositions un petit peu importantes de cette convention. Alors l'interdiction de la publicité sur les produits polluants, poubelle. Baisser la TVA sur le train, pareil. La suppression des niches fiscales pour les pollueurs, balancée. La taxation sur les engrais polluants, alors là, dégagée. Une taxe sur le trafic aérien, bim, au compost. Un malus sur les grosses bagnoles de riches très polluantes. Alors celle-là, reformulée, mais de manière à ce qu'elle puisse plus servir à rien. Le moratoire sur les zones commerciales, ah, ça c'est devenu une recommandation pour les préfets. Une recommandation écrite, et puis après, oralement, on imagine qu'il peut y avoir des trucs dans le genre, non, mais autrement, en fait, on ne tenait pas trop compte. Arrêter de construire de nouveaux aéroports, jamais. L'abandon du CETA, vous imaginez. Et puis le moratoire sur la 5G, bon, vous voyez bien. Avec la crise sanitaire, Macron va même réautoriser des produits hautement toxiques et polluants. On parle ici, par exemple, en particulier des néonicotinoïdes qui butent les abeilles. Et sa majorité va voter une aide de dizaines de milliards d'euros aux industries polluantes. Il y a aussi la fameuse loi ASAP. Alors ASAP, ça veut dire accélération et simplification de l'action politique.
Et ça ne veut pas dire as soon as possible.
Eh bien oui, c'est ça. Et ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire accélérer et simplifier? Ça veut dire qu'on arrête de faire chier les industriels avec des procédures quand ils veulent s'installer, construire des machins, des trucs. On ne va pas non plus aller s'amuser à vérifier dans quelle mesure c'est polluant ou dangereux.
C'est-à-dire que les moyens de contestation de ces projets-là sont aussi vachement limités.
Ben oui, c'est ça. C'est pour que ça aille plus vite, en fait, parce que jusqu'à maintenant, il y a moyen d'introduire des tas de machins judiciaires qui font que ça traîne.
Par exemple, on imagine assez bien qu'avec ce genre de loi, aujourd'hui, à Notre-Dame-des-Landes, il y aurait un aéroport, par exemple.
Il y a des grandes chances, effectivement. Notre-Dame-des-Landes, ça a été un rapport de force hyper long et compliqué. Mais entre autres, l'action judiciaire, c'est sûr, a joué son rôle. Et c'était un rôle pas négligeable, c'est clair. Et là, avec ce genre de loi, ce rôle-là, dégagé.
En tout cas, il permet aussi d'avoir des lieux complètement définis, comme c'est bon, vous pouvez le prendre clé en main, on a déjà fait les études, alors que les citoyens ne sont pas du tout au courant.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Bon, la loi ASAP, moi je l'avais résumé par on se débarrasse du plus gros du droit de l'environnement.
Voilà.
Bim. Et tout ça, bien sûr, sans parler de la répression féroce de toutes les luttes écolo qui peuvent se passer en France. Et en France et dans les colonies, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien l'histoire du chlordécone, tout ça. Alors, après avoir humilié sa propre convention, la convention qu'il avait lui-même créée, Macron, ma foi, en profite aussi pour l'insulter à plusieurs reprises. Alors, les amiches par-ci, la lampe à huile par-là. Et le, c'est pas parce que 150 citoyens ont écrit un truc que c'est la Bible ou le Coran. On a entendu parler de tout ça. À tel point que certains...
C'était pas beaucoup plus que 150 pour écrire la Bible ou le Coran, quand même.
À tel point que certains et certaines de ces citoyennes et citoyens chargés d'élaborer les mesures au Parlement refusent finalement de participer au rendez-vous. Il y en a un qui dit à un moment, ces réunions avaient pour objectif de nous présenter un projet que nous n'avons pas eu en amont et sur lequel nous n'avons pas pu travailler et discuter. C'est à la limite du sabotage. Alors disons en réalité que c'est pas du tout dans les habitudes de la Convention, hein, dont les membres ont quand même toujours bien pris le temps de comprendre les tenants et les aboutissants des sujets sur lesquels ils et elles se sont penchés. Par contre, c'est quand même carrément, complètement, depuis le départ du quinquennat, un élément de la méthode Macron, de convoquer des gens pour les consulter, pour consultation, pour réfléchir ensemble, et là, de leur présenter un document de 300 pages, tout ficelé, inchangeable, et sur lesquels ils ont une heure pour parler, et puis merci, ciao.
Enfin, sauf si on fait partie de la police nationale ou des syndicats de la police nationale.
Oui, tiens, c'est vrai. C'est vrai. Tu as raison de le souligner. Et puis, avant-hier, le même Macron finit par annoncer un référendum pour inscrire la défense du climat dans la Constitution. Sans rigoler. Alors le « en même temps » ressemble ici à un grand écart, mais en fait, il s'agit bien sûr d'une manœuvre stratégique avant la présidentielle. Comme il y a de moins en moins de monde pour penser une seconde que Macron fait quoi que ce soit pour l'écologie, et que l'écologie, malgré tout, ça semble un sujet qui préoccupe les gens, eh bien, il tente ce coup-là. C'est un coup qui aurait quand même plusieurs avantages. D'un côté, ajouter une phrase dans la Constitution, franchement, ça engage à rien, à que dalle. Plutôt que, par exemple, de tenir l'interdiction des néonicotinoïdes pendant plus d'un an, hein, eh ben, autant dire dans la Constitution qu'on est pour le climat, c'est quand même un peu plus facile. Et puis surtout, d'un autre côté, on imagine que s'il y a un référendum pour changer la Constitution, pour y mettre le climat, il ne va pas y avoir grand monde qui va... Alors c'est pour répondre à ta question, il ne va pas y avoir grand monde qui va aller voter contre. Ouais. Parce qu'il faudrait quand même vraiment assumer d'être le dernier des connards pour aller voter contre le climat, quoi. Personne n'est contre le climat, ça n'existe pas. À part un ou deux enragés, généralement plus ou moins complotistes ou faf ou je sais pas quoi. Mais bon, personne n'est contre le climat. Donc, énorme succès assuré au référendum et une sorte d'impression générale de plébiscite. Et c'est bien là-dessus que compte Macron. Et dans la foulée, une chance de faciliter le ralliement de la tendance vert pâle du monde politique, c'est-à-dire Yannick Jadot. Et ce qui aiderait bien Macron qui... gouverne depuis 2017 à droite et à l'extrême droite depuis, allez, disons, un an, ce qui l'aiderait bien à recentrer son image, tout en faisant imploser ce qui reste de la gauche. Du cynisme politique de base, auquel on ne peut opposer pour notre part qu'une abstention active et des mobilisations massives pour soutenir les ZAD et les luttes pour le vivant.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre tous les moments.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre qu'il soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre.
Contre la machine.
Ah punaise, non, il n'y a pas fini.
Contre la machine à expulsion.
Alors, eh bien, on va faire un petit point sur la situation des migrants et immigrantes à Paris. Et alors, après les démantèlements violents de Saint-Denis et de Paris, dont on a parlé plusieurs fois sur ce créneau, et malgré les fausses annonces gouvernementales qui parlaient de mise à l'abri, si 500 personnes ont bien été parquées dans des gymnases et des hôtels, et ce de manière ultra temporaire, il reste au bas mot 400 migrants dans la rue en périphérie de Paris. Et quand on dit 400 migrants et migrantes, c'est identifié. C'est-à-dire qu'il y en a quand même encore un paquet qui, je pense, se planque plutôt bien. Un collectif d'associations réclame la réquisition de 7 bâtiments vides pour certains vides depuis plus de 20 ans. Et il serait faux de penser que la traque et les violences policières se sont arrêtées le soir de l'expulsion de la place de la République à Paris, puisque la police continue de déloger de nuit le moindre regroupement de 2 tentes sous des ponts ou n'importe quoi d'autre, par des nuits à 2 degrés.
forçant les exilés à s'éloigner encore plus loin de la périphérie, rendant leur accès et à leurs besoins élémentaires, tels que par exemple de la distribution de bouffe, à des douches ou à des permanences d'accès aux droits, quasiment impossible. Voilà, ça oblige en gros les assos, elles avaient des points à des endroits un peu genre Porte de la Chapelle, tout ça, qui étaient un peu connus. Et là, en fait, bah, pour les personnes qui en ont besoin, ça devient très compliqué. Du coup, les assos sont obligés de s'éloigner encore plus pour des plus petits nombres de gens dans des endroits qui sont encore plus cachés. Bon, bref, c'est la merde.
Oh, classe, trop bien.
C'est pas mal, mais c'était pas du tout que je voulais mettre. Alors, un ancien immeuble abandonné squatté par près de 200 exilés depuis quelques années a pris feu la semaine dernière à Barcelone. 4 personnes ont été retrouvées mortes dans l'incendie, mais le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines semaines. À l'origine de l'incendie, une bougie servant à s'éclairer. Et alors, pourquoi ils sont éclairés à la bougie? C'est parce qu'à 21h le même jour, l'électricité avait été coupée, obligeant les habitants et habitantes à prendre plus de risques pour s'éclairer, se chauffer et se faire à manger. Seydou Camara, un Sénégalais d'une trentaine d'années qui vivait dans le squat, témoigne. J'étais sur la terrasse au dernier étage. Quand j'ai entendu des cris, je suis entré, mais je pouvais à peine respirer et ne voyais presque plus rien, comme il n'y avait pas de lumière. La mairie conservatrice, plutôt que de parler de drame, d'exprimer ses condoléances aux familles comme cela se fait dans ce genre de situation, si ce n'est pas un squat d'exilés, s'est empressé de déclarer qu'il avait bien essayé d'expulser le squat à plusieurs reprises. La grande classe. Une situation similaire avait eu lieu à Lyon il y a quelques années où la mairie avait fait couper dans un hangar qui était squatté par des familles de Roms l'électricité et il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire que les gens, pas parce qu'ils ont l'électricité, plus d'électricité, qu'ils vont partir et qu'ils ont des solutions nouvelles qui arrivent. Ils ont décidé de se chauffer, de s'éclairer la bougie et des personnes sont mortes à la suite d'un incendie. Quand on sait que depuis le début de l'année, au moins 1000 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée, chiffre qui risque de considérablement augmenter avec l'absence de navires de secours d'ONG sur la zone, absence générée par l'Italie notamment qui maintient les navires à leur port pour des soucis soi-disant techniques, les exilés ne risquent pas leur vie seulement sur la route, mais également une fois qu'ils arrivent là où ils pensaient avoir trouvé un refuge. Et cette fois-ci, ici, pas de tortionnaires libyens, simplement le cynisme et la lâcheté et la basse morale des gouvernants européens. Et ben c'est 19h30, on finit ce Canu Info par un agenda.
Un agenda assez fourni pour cette fin de semaine, oui, puisqu'il y a demain, jeudi, un rassemblement au Terreau à 18h, donc pour Lyon. Après, il y a pas mal d'autres rassemblements en France si vous êtes ailleurs, pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses et aux travailleurs du sexe. Si on a une minute, oui, on a une minute, je voulais vous lire le communiqué qui a été fait pour Lyon. Alors, c'est un communiqué de plusieurs associations, donc il y a Cabiria, Frise, Trace et Aide. Alors même que la ville de Lyon enregistre un nombre croissant de violences envers cette communauté, nous constatons amèrement que leurs conditions de vie n'émeuvent pas les personnes ayant le pouvoir de faire évoluer cette situation. Sous le mandat du maire Gérard Collomb, la ville de Lyon a adopté 8 arrêtés anti-prostitution ou anti-stationnement de camionnettes, ce qui en fait la ville pionnière et la championne de la répression. L'abrogation en 2016 des dispositions sur le racolage a pourtant émis un message clair. Les travailleurs et travailleuses du sexe, elles-mêmes, ne devraient jamais être pénalisées pour l'exercice de leur activité. Après près de 20 ans de lutte des travailleuses du sexe face aux arrêtés, de réunions de concertation avec les habitantes de quartiers concernés, de rencontres avec les élus de la municipalité de Colomb, cette décriminalisation programmée de 2016 n'a pas été mise en pratique à Lyon. Les arrêtés municipaux constituent bien une repénalisation visant les TDS. Après près de 20 ans à alerter sur l'augmentation des violences, la précarisation des TDS, l'augmentation de l'exposition aux IST, dont le VIH, le stress, l'angoisse de la répression et de la survie, rien n'est pris en compte par les décideurs-décideuses politiques. Anxieux, anxieuses face au contexte de pandémie qui fragilise encore plus cette communauté déjà fortement marginalisée et qui n'a en retour à ses nombreuses sollicitations aucun soutien de gouvernement, sauf une violence supplémentaire, le silence et le déni. Furieux et furieuses face à l'impunité des crimes haineux contre les travailleurs-travailleuses du sexe à Lyon, les arrêtés municipaux et les relations dégradées avec les autorités policières et le refus d'intervenir lors d'agressions. En solidarité avec les travailleuses du sexe sauvagement attaquées, violentées, grièvement blessées, volées et qui ont vu leur camionnette incendiée, parfois même alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur. En souvenir d'Anne-Laure, décédée le 23 octobre 2019, en solidarité avec notre collègue brésilienne défenestrée lors d'une opération policière en février, avec Chantal et Gabriella, fauchées par une voiture, ainsi que toutes les autres blessées lors des agressions à Gerland et ailleurs, nous vous convions à un rassemblement, jeudi 17 décembre 2020, à 18h, place des Terreaux. Donc, c'est demain. Et deux autres rassemblements vendredi, un rassemblement de soutien au squat Pierre Sémard à Oullins, dont le Grand Lyon Métropole a demandé l'expulsion immédiate en plein hiver, voilà, pendant la trêve hivernale. Donc l'immeuble est situé rue Pierre Sémard à Oullins, il est occupé depuis mi-juillet 2020 par une vingtaine de personnes, hommes ou femmes de tout âge, une famille avec des enfants scolarisés et leurs deux chats, on nous précise le communiqué. Il y a un rassemblement de soutien qui est organisé lors de l'audience, vendredi, c'est vendredi-là, 18 décembre, au tribunal judiciaire de Lyon à 9h.
Ça vaut vraiment le coup de se débarrasser de Gérard Collomb, non?
Parce qu'en plus, si je veux pas dire de conneries, mais il me semble qu'à Grand Lyon Métropole, il y a eu un très proche du président de la métropole qui a été mis en place.
Ah, donc, ah oui, donc, son oncle.
Oui, voilà, c'est son. Ouais, ça, je voulais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est son oncle. Donc voilà.
D'accord, d'où les expulsions.
D'où les expulsions qui comptent, ouais, c'est ça.
Très bien. Et pour finir, toujours vendredi, vous pouvez faire les deux puisque c'est plus tard, ça sera à 18h. L'acte 4 des sans-papiers, donc on avait parlé des actes précédents un peu. Il y aura donc une manifestation place de la Comédie à Lyon. Et puis c'est toujours les mêmes revendications, fermeture des CRA, droit au logement pour tous et des papiers pour tous. Voilà.
Non, mais t'as fini, toi ?
Oui.
Eh bien, je pouvais finir avec un tout petit point météo, hein, parce que Météo France l'a annoncé, il n'y aura pas de neige pour Noël dans la région.
Non !
Ah bah oui, désolé, hein, cette année encore, ce sera Noël au balcon, mais ne vous inquiétez pas, au rythme où on va pour Pâques, la baignade sera de saison.
Voilà. Oh, oh, oh. Et... tu refais des nouveaux dictons de météo, c'est trop bien.
Et ben en tout cas, c'était trop cool hein, d'être en direct quand même.
Oui, mais ça nous oblige maintenant à partir en courant pour regagner nos foyers avant l'heure fatidique et pas nous faire arrêter par la police.
Ouais, parce que moi, ça devrait être bon, mais j'ai l'impression que dans ce studio, je serais un peu le seul. Bref, merci de nous avoir écoutés. On vous retrouve très certainement après les vacances.
Dans trois semaines.
Et très certainement en direct, sauf si de nouvelles mesures gouvernementales nous empêchent de retourner dans ces studios. À bientôt.
Qui ne saurait advenir.
Allez,
ciao.
Ciao.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Radio Canu, vous venez d'entendre Mathilde quand elle se regarde dans la glace en duo avec Letty Dudahu. Ensuite, il y avait Lala Bolduc, Le Bronx, et tout de suite derrière, Trottignan, Romagno et Vignolo qui chantaient Black Dog.